pas.
Bon. Ça va. Shalom tout le monde. Comme vous le savez, la période de l'Omer, entre Pessah et Shavuot, est une période de joie. Effectivement, le Ramban, Nahmani, dans son commentaire sur la Torah, nous explique que la Torah a institué une sorte de Chol HaMoed, c'est-à-dire de jour profane au sein d'une fête, entre Pessah et Shavuot. De même que vous avez un Chol HaMoed entre le premier jour et le dernier jour de Pessah et le premier et dernier jour de Sukkot, vous avez également, comme si une longue fête de 50 jours, avec un début qui est Pessah et une fin qui est Shavuot, et au milieu, il y a la joie. Pourquoi la joie? Ben parce qu'il y a une progression. Quand on progresse, on est toujours heureux. Il y a en fait deux sortes de joie que la tradition appelle Simcha et Sasson. Simcha, c'est quand on est arrivé à la réalisation de son rêve. Voilà, j'ai réussi, je suis dans la joie. Ça, c'est Simcha. Il y a une autre forme de joie qu'on appelle Sasson. C'est quand on est occupé, soit que Sasson occupé. Et c'est, Sasson, c'est quand on est en route vers la réalisation de son but. C'est la joie de la progression. C'est ce genre de joie, c'est ce type de joie que nous trouvons à l'époque de l'Homère. C'est un peu à la manière de quelqu'un qui est en convalescence. Nous étions dans la maladie de l'exil en Égypte, et puis à la santé de la Torah, et puis entre la maladie et la santé, il y a une période qu'on appelle la convalescence. C'est-à-dire qu'on va de mieux en mieux, on n'est pas encore arrivé jusqu'au bout, on n'est pas arrivé au but, mais ça commence à aller de mieux en mieux, donc il y a une joie. C'est ce qu'explique le Ramban. Alors maintenant, vous comprenez pourquoi un des maîtres du judaïsme d'Alep en Syrie, au XIXe siècle, Rabbi Avraham Hamaoui, a expliqué que le mois de Yar, qui est le mois intermédiaire de cette période, c'est l'époque de la réussite d'Israël. Yom Ha'atzlacha, Yemei Ha'atzlacha l'Israël. Et on a même trouvé des initiales pour le mois de Iyar, c'est Ani Adonai Rofecha, je suis l'Éternel qui te guérit. Évidemment, c'est la convalescence et le rétablissement. Alors, il y a toujours un problème quand on est en convalescence, c'est le risque de rechute. Voilà, tout va bien, mais on risque de retomber. On peut dire d'une certaine manière que le malade est mieux protégé que le convalescent, parce que le malade, tout le monde sait qu'il est malade. Alors il y a des processus intérieurs dans le corps qui protègent le malade de l'effort superflu, et puis il y a également les médecins, il y a toute la société qui tout autour préserve le malade. Et puis l'homme en bonne santé, ben, il est en bonne santé. Mais l'homme qui est en route, il fait moins attention, il risque de retomber. Ce qui explique pourquoi cette période de joie est devenue dans l'histoire une période de deuil. D'accord ? Maintenant, vous savez qu'à l'époque de Chol HaMoed, dans les temps de Chol HaMoed, d'après la Halakha, on ne se rase pas la barbe et on ne se marie pas. C'est pour des raisons de joie. On ne se rase pas la barbe pendant Chol HaMoed pour qu'on se la rase avant la fête, et on ne se marie pas parce qu'on ne mélange pas une joie avec une autre. Donc vous voyez bien que ces interdictions de l'époque de l'Homère, à l'origine, sont des interdictions heureuses, qui sont devenues des interdictions malheureuses, de deuil, à cause des malheurs qui se sont accumulés sur le peuple juif pendant cette époque. Alors, vous comprenez que cette époque-là est une époque où on essaye de rétablir l'indépendance d'Israël, et il y a eu une tentative de ce genre à l'époque de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a soutenu de toutes ses forces spirituelles et autres, l'action libératrice de Bar Kokhba. Bar Kokhba, qui a dirigé la révolte contre les Romains, et qui a tenté de rétablir l'indépendance d'Israël à cette époque, qui a régné pendant 4 ans, 3-4 ans, qui a même frappé Monet, et qui a peut-être, les historiens sont partagés là-dessus, qui a peut-être rétabli le culte à Jérusalem momentanément. Les élèves de Rabbi Akiva étaient également des soldats dans l'armée de Bar Kokhba. C'était des Talmidei Chachamim, mais c'était également des soldats, et ils sont morts dans cette époque-là, de manière tragique, où ils sont morts au combat. Vous le savez. Et alors évidemment, on vous raconte des tas de choses, que c'était une sorte d'épidémie, de la maladie qu'on appelle Ascara, etc. En fait, c'est totalement faux. Nous avons un témoignage historique, celui de Rabbeinu Shrira Gaon. Rav Shrira Gaon était un des grands maîtres de Babylonie, au milieu du Moyen-Âge, qui a amené des traditions historiques qui étaient préservées dans la Yeshiva de Babel, et qui nous dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts pendant la guerre de Bar Kokhba. Et simplement, ce texte n'était pas connu de Rashi. Rashi explique le texte de la Gemara qui parle d'une épidémie comme étant littérale, alors qu'en fait, la Gemara ne parle pas là-bas de la réalité historique. Et donc, Rav Shrira Gaon, dans son livre Igeret, Rav Shrira Gaon, qui est un livre d'histoire rabbinique de très haute fiabilité. En tout cas, donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'Agba Omer? Selon la tradition, alors on dit, les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir. Ça veut dire quoi, ils ont cessé de mourir? Eh bien, ça veut probablement dire qu'il y a eu une victoire militaire très importante. Effectivement, nous avons un témoignage de Dio Cassius. Dio Cassius est l'historien romain qui parle de la révolte, qui nous dit que l'empereur avait pour habitude, quand il se présentait devant le Sénat à Rome, de dire « Paix, il y a paix sur moi et mes armées ». Et quand il y a eu un jour où Adrien est arrivé au Sénat à Rome, il n'a pas dit cette formule parce qu'il venait d'apprendre qu'une légion entière avait disparu totalement jusqu'au dernier en entrant dans le territoire occupé par Bar Corba. Donc vous voyez que ils rigolaient pas, les soldats de Bar Corba, ils massacraient les Romains. On ne sait pas s'ils se servaient de menhir pour ça, mais en tout cas, il y a un texte dans la Gemara qui nous dit qu'il y avait un certain Bar des Romains qui est identifié par les historiens avec Bar Corba, qui était très fort et qui lançait de très grosses pierres sur les armées des Romains. Oui. Alors certains disent que on prétend que c'est ça qui aurait inspiré le personnage d'Obélix chez Goscinny, à savoir. En tout cas, Goscinny ne l'a jamais confirmé. Mais enfin, c'est pas du tout impossible. Comment ?
Sa fille
l'a confirmé. Ah d'accord, c'est très bien. Ah c'est très bien. Voilà, bon, c'est très bien. Donc il faut retrouver donc des menhirs et peut-être des piles de casques dans les lieux des combats de Bar Corba. Il y a un rapport très direct entre le personnage de Rabbi Akiva, Bar Corva, et la personnalité d'un des plus grands élèves de Rabbi Akiva, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai a œuvré après la révolte, et après l'échec de la révolte, et c'est lui qui continue la tradition de l'opposition aux Romains. Là, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle les Romains l'ont persécuté et qu'il a dû s'enfuir dans la grotte. Vous savez, quand on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai qui va dans sa grotte, qui s'enferme pendant 12 ans, etc. Alors, on s'imagine que c'est pour des raisons mystiques. Comme si Rabbi Shimon Bar Yochai avait besoin d'un isolement particulier pour arriver à des connaissances sublimes, etc. Rien n'est plus faux que ça. La Gemara dit qu'il est rentré dans la grotte parce qu'il se cachait. Il se cachait et qu'il fallait bien se protéger des Romains. Donc pendant 12 ans, il était coincé là-bas. Et coincé dans sa grotte, ben alors il fait effectivement des études mystiques et il donne le texte qui va donner plus tard le Zohar. Et j'aimerais comprendre exactement qu'est-ce que voulait Rabbi Shimon Bar Yochai faire exactement. Alors je voudrais vous donner cela de manière, si vous voulez, extrêmement succincte. On peut dire que du temps de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait une très grande espérance, un très profond désir du peuple juif de vivre une vie normale. Vous savez ce que veut dire une vie normale pour un juif ?
Indépendant.
Et donc, et la réalité est exactement le contraire. Les Romains écrasaient le monde, et entre autres les Juifs. Et donc, ce désir est devenu extrêmement violent, devenu extrêmement fort. Il s'est renfermé sur lui-même et entré dans une grotte, et ça a donné le Zohar. C'est-à-dire, le Zohar, c'est ce qui préserve pendant tout le temps de l'exil le souvenir de ce que c'est qu'une vie normale, de sorte que on peut dire que tout ce qui était connu comme quelque chose de révélé au temps où Israël était indépendant est devenu des secrets de la Torah. C'est comme si on prenait l'État et qu'on le transforme en secret. C'est aussi pourquoi le Rav Tzvi Yehuda Kook disait que tout arbre que l'on plante aujourd'hui en Eretz Israël, c'est une révélation de dizaines de secrets de la Torah. C'est-à-dire les secrets de la Torah redeviennent des arbres. Ils redeviennent des maisons, ils redeviennent des routes. D'accord ? Et c'est comme ça qu'à travers ces routes, ces arbres, ces maisons, la Shekhina recommence à résider au sein d'Israël. Vous comprenez pourquoi donc le Zohar dit que c'est par l'étude du Zohar que viendra la Géoula pour Israël. Effectivement, la Géoula, c'est revenir à l'état normal. Eh bien, on fait sortir tout ça du Zohar et on le remet en place.
Vous pouvez expliquer ce que c'est l'état normal, déjà ?
L'état normal, c'est quand Israël est sur sa terre et que Dieu est présent parmi nous. C'est-à-dire qu'il y a des prophètes, par exemple. Okay. Donc, c'est
une vie normale, vous avez dit c'est indépendant. Mais c'est
quoi? Oui, la vie normale, c'est d'être indépendant.
Que, c'est quoi être indépendant?
Ben, c'est-à-dire que tu as l'indépendance politique, que tu as ton état à toi, que ce n'est pas l'égoïme qui te dit ce que tu dois faire. Okay. Voilà. C'est tout simple, n'est-ce pas?
Oui.
C'est, ça tombe sous le sens. Il y avait un juif qui, il y a à peu près 2000 ans, un peu moins de 2000 ans, était venu voir les rabbins à Jérusalem. Il est allé voir les rabbins, il leur a dit « Messieurs les rabbins, vous attendez que le fils de David vienne pour vous libérer de la domination des Romains. Mais moi, je suis venu pour sauver les âmes. » Alors les rabbins lui ont dit « Bon, ben, c'est très sympathique ce que vous dites, mais dans ce cas, vous êtes en dehors du judaïsme. D'accord ? Parce que nous, on attend que le fils de David vienne pour nous libérer des Romains. » Bon, au Hachem, aujourd'hui nous sommes libérés des Romains, des Britanniques, etc. Nous avons notre indépendance. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai est tout content. Maintenant, je voudrais quand même resituer Rabbi Shimon Bar Yochai dans la tradition de l'enseignement qu'il transmet. Rabbi Shimon Bar Yochai transmet l'enseignement qu'on appelle la Kabbalah. Ils sont tous très impressionnés aujourd'hui parce que le cours est dans une autre salle. Alors ils sont tous très silencieux. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'émotion. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai enseigne ce que l'on appelle la Kabbalah. Alors, c'est quoi la Kabbalah? La Kabbalah, ça suppose qu'il y a une tradition secrète, qu'on appelle en français ésotérique, parallèle à la tradition révélée, qu'on appelle en hébreu le Niglé. Vous avez donc Niglé, Nistar. En fait, dans tout système spirituel, vous avez toujours des enseignements de deux types. Un enseignement pour tout le monde, et un enseignement pour les initiés. C'est toujours comme ça. Vous avez dans la Gemara, dans Maseret Sanhedrin, non, pardon, dans Maseret Eruvin, il y a un texte où on dit comment est-ce que Moshe a enseigné la Torah. Alors on dit, voilà, que Moshe a enseigné la Torah à Aaron. Une fois qu'il avait fini de l'enseigner, eh bien, Aaron se mettait à la droite de Moshe, et alors entrait Elazar et Itamar, les deux fils d'Aaron, et Moshe leur enseignait. Une fois qu'il avait fini, Elazar se mettait à la droite d'Aaron et Itamar à la gauche de Moshe, et alors les anciens, les 70 Ekenim, entraient pour étudier chez Moshe. Une fois qu'il avait fini, les anciens se mettaient des deux côtés, et alors le peuple entrait. Oui.
Et Nadab et Abihu, ils sont pas reçus.
Nadab et Abihu étaient morts. Et donc, oui.
Mais il avait enseigné avant qu'il meure.
Oui, mais on parle de ce qui se passe après leur mort. Et puis, donc, après tout Israël entre et Moshe leur enseigne. Une fois tout cela fait, donc Moshe a enseigné quatre fois, Moshe quittait l'endroit, et c'est Aaron qui enseignait. Après Aaron partait, c'était Lazare et Itamar qui enseignaient, et Lazare et Itamar partaient, c'était les anciens qui enseignaient, ce qui fait que tout le monde avait appris la Torah quatre fois. Maintenant, pourquoi cette nécessité que Moshe enseigne à Aaron tout seul, à Lazare et Itamar en petit comité? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut révéler qu'à certains, et d'autres qui sont réservées, qui sont disponibles à tout le monde, n'est-ce pas? Ce qui vous explique qu'il y a toujours dans la Torah différents niveaux d'enseignement. Il y a des choses que l'on ne révèle qu'en petit comité. Il y a des choses qui sont enseignées à tout le monde. Oui.
Mais ce n'est pas que tout le peuple d'Israël avait le même niveau.
Par rapport à ces trois niveaux, tout le peuple d'Israël a le même niveau. Par rapport à ces trois niveaux. Maintenant, dans chaque niveau, tu as différents degrés. Je ne sais pas si Elazar et Itamar comprenaient exactement de la même manière. N'est-ce pas? Et si tous les 70 anciens comprenaient de la même manière? Et donc, si tout le peuple d'Israël comprenait de la même manière. Donc, il y a différents niveaux dans les niveaux. Et donc, il y a une tradition secrète qui est enseignée dans la tradition d'Israël. Maintenant, c'est quoi le contenu de cette tradition? Alors, d'abord, on va voir quel est le contenu de la tradition qu'on appelle le Niglé, la tradition ouverte à tout le monde. De quoi ça parle la Torah, vous savez? De morale? Non, pas du tout. La morale, ça, c'est un truc qui est enseigné déjà avant la Torah, par les goyim aussi. C'est pas ça que la Torah est venue nous enseigner.
Halakhot.
Des halakhot. Alors, c'est quoi des halakhot?
Des règles de vie.
Ça veut dire quoi, des règles de vie? Ça suppose qu'il y a quoi? Il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, n'est-ce pas? Il y a la différence entre le bien et le mal. Donc, quand j'étudie la halakha, je passe mon temps à faire une visite des frontières entre le bien et le mal. Qu'est-ce que ça me fait quand je passe mon temps à me remplir de connaissances, ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien, ça c'est mal. Qu'est-ce que ça me fait intérieurement?
De toute nuance.
Se perd la nuance. Au moins j'ai la nuance entre le bien et le mal. Et puis, qu'est-ce que ça me fait?
Sur la bonne route.
Sur la bonne route, c'est rien, oui, effectivement.
On a un
Sechel. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée que ça me fait un monde coupé en deux? Bah oui, c'est, si je suis en train d'étudier la limite entre le bien et le bien c'est jusque là, le mal c'est à partir de là, donc à quoi je passe mon temps? À voir un monde coupé en deux. Hein? Ça peut créer dans l'être une sorte de dualisme. Puisqu'il y a un bien d'un côté et un mal de l'autre, donc il y aurait un dieu du bien, un dieu du mal. Oui, alors effectivement, la conscience du Yetzer Hara, du Yetzer Hatov, c'est la même chose. Je suis tiraillé entre deux manières d'être et qui sont toutes les deux moi-même. Mais mon Yetzer Hatov me dit certaines choses, mon Yetzer Hara me dit autre chose. Je suis donc tiraillé.
Donc ça veut dire que quand on parle dans la Torah qu'il y a le Yetzer Hara, il est là, c'est entre guillemets, c'est un ange qui est là pour...
Oui, alors j'ai un bon ange, un mauvais ange, et alors?
Donc c'est pas ça, en fait, tout simplement, c'est notre personnalité.
Peu importe, c'est pas ça que nous sommes en train d'étudier. Nous ne sommes pas en train de faire un cours sur le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quoi sert la tradition du Niglé. La tradition du Niglé me permet de connaître la différence entre le bien et le mal, et je m'en fiche pas mal maintenant de savoir d'où ça vient, si c'est un ange ou quelque chose en moi, etc. C'est pas mon sujet.
Ah, donc, je pense que c'est...
Quoi? Quoi? Après? Pourquoi pas maintenant? Bon, d'accord, ça viendra. J'espère que tu n'es pas timide. Libre-arbitre. M'en fiche du libre-arbitre, c'est pas mon sujet.
On a
le libre-arbitre, mais le libre-arbitre me dit qu'il faut choisir entre deux choses. Entre le bien... Il faut les connaître. Donc j'ai la connaissance du bien et du mal. Ça crée en moi donc le sentiment de vivre dans un monde qui est tiraillé entre deux pôles. Oui.
Et celui qui n'étudie pas?
Celui qui n'étudie pas, il est en dehors du coup.
Mais il n'a pas de libre-arbitre?
D'une certaine manière, oui. C'est-à-dire que le libre-arbitre, c'est essentiellement de savoir si on étudie ou si on n'étudie pas. C'est-à-dire la connaissance du bien et du mal permet au libre-arbitre de s'exprimer. Bon, maintenant, continuons notre étude passionnante, là. Je voudrais quand même enfoncer dans l'histoire de l'enseignement de la Kabbalah et de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, permettez-moi de le faire quand même, tout de même, c'est pas possible. Alors, je reprends. Donc, il y a un petit problème. C'est ce monde intérieur que ça crée en moi, cette idée que je suis tiraillé entre deux pôles, une bipolarité entre le bien et le mal. Ça contredit la foi monothéiste, non? Moi, je suis monothéiste, ce qui veut dire que je crois en un seul Dieu, ou bien que je ne bois qu'une seule tasse de thé. En tout cas, oui, monothéiste. Mais comprenez que l'intuition... Oui, c'est bien, c'est à retardement, j'aime bien. Voilà, et donc... qu'est-ce qui se passe? Vous comprenez? Ils sont terribles. Donc, c'est difficile de à la fois vivre dans un monde que je sais être... être créé par un seul Dieu, donc un monde qui est censé être harmonieux, et un monde qui me dit qu'il y a le bien et le mal.
Moi, comment? Je n'ai pas compris pourquoi il faut avoir le bien et le mal, il n'est pas monothéiste.
Parce que s'il y a le bien et le mal, le plus logique c'est de dire qu'il y a un Dieu du bien et un Dieu du mal. Il y a cette tendance dans le christianisme, mais c'est disons atténué par rapport par exemple au dualisme de Zoroastre et le manichéisme et tous ces machins là mais enfin disons que c'est assez logique, non, de dire qu'il y aurait deux entités, une du bien et une du mal, et qu'elles se font la guerre, puisque c'est comme ça que ça se passe en moi, puisque j'ai mon Yetzer Hatov et mon Yetzer Hara, j'ai ma nature et j'ai mon âme.
On veut essayer de comprendre l'univers en tant qu'être humain,
oui.
En dehors de nous, c'est pour ça.
Oui, alors je dis par exemple, il y avait un enseignement que donnait Manitou à Lava Shalom, Zerudo Aganale, nous. Pourquoi est-ce qu'il y a un moment de joie lors de la Koupa? Vous avez déjà vu une Koupa dans la vie? Oui. Alors ce qui est intéressant, vous avez remarqué qu'il y a un moment dans la Koupa, un moment assez court mais très important, très intense, où il y a, on sent une joie très forte, n'est-ce pas? Eh bien, Manitou disait pourquoi? Parce que la Koupa c'est le seul moment de la vie où le Yetzer Hara et le Yetzer Hatov veulent la même chose, ce qui prouve que notre monde n'est pas un enfer.
C'est quoi ce qu'ils veulent?
Ils veulent une
femme. Ben, ils veulent la vie sexuelle. D'accord? C'est une mitzvah. Et c'est pour ça qu'il y a le mariage. D'accord? Donc il n'y a plus de tiraillement entre les deux pôles. C'est pour ça qu'on peut dire qu'il y a une recherche très profonde de l'unité. Jusque-là, vous suivez? Bon, alors ça veut dire quoi tout ce que je vous raconte? Ça veut dire, il n'y a pas de chaise pour lui? Mais c'est dramatique. Comment est-ce que tu veux être dans un cours sans chaise? C'est terrible. Comment il va tenir? On a été te chercher quelque chose. Oui, non, c'est très important. C'est ça. Donc vous comprenez que dans tout enseignement qui enseigne qu'il y a un bien et un mal, il doit y avoir en parallèle à cela, tenez-vous bien, c'est très important ce que je vous dis là, il doit y avoir une doctrine parallèle qui enseigne l'unité. Alors, vous connaissez le texte de la Torah qui nous parle, on a étudié ça je crois, qu'il y a un arbre dans le jardin d'Éden qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu te fiches de ma pomme. Et il y a un autre arbre qu'on appelle l'arbre de
la vie.
N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qu'enseigne l'arbre du... Alors, pour le Zohar, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est ce qu'on appelle le niglé. C'est-à-dire, c'est la loi qui nous enseigne la différence entre le bien et le mal. Et donc, les catégories... Alors... Coupé. Alors, les catégories d'enseignement de la loi qu'on appelle le niglé, c'est Etzada Tovara. C'est-à-dire, dans le Etzada Tovara, dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous avez le permis et l'interdit, le pur et l'impur, le condamné et l'innocent. Enfin, vous avez le bien et le mal. Voilà. Tout ça, c'est ce qui compose le contenu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le Zohar ajoute, il y a une autre loi, un autre enseignement, le Etz HaChaim, la loi de l'arbre de vie, dans lequel il n'y a que du bien. Tout est bon, tout a un sens, il n'y a plus de mal, il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus d'impureté. C'est-à-dire, quelle est l'intuition développée par le Etz HaChaim, par l'arbre de vie? Le monothéisme. D'accord? Et donc, il y a toujours cette dualité, si vous voulez, entre les deux arbres dans l'enseignement de la Torah. Il y a le niglé et le nistar, le révélé et le secret. Dans le révélé, vous avez le bien et le mal, et dans le secret, tout a un sens, y compris le mal. N'est-ce pas? C'est dangereux ce que je vous dis. Si je dis que tout a un sens, y compris le mal, alors ça veut dire qu'on peut faire le mal. Ce qui a tenté d'ailleurs pas mal de monde. Par exemple, il y avait un juif hérétique il y a 400 ans qui s'appelait Shabtai Tzvi, qui était un faux messie, qui lui également affirmait qu'il faut faire le mal pour des raisons idéales. Parce que étant donné qu'il y a des étincelles de sainteté en toute chose, il faut aller les chercher. Comment est-ce qu'on va chercher les étincelles de sainteté en toute chose? Eh bien, il faut rentrer dans le mal et là-bas on va récolter les étincelles. Donc il faut faire des péchés. Il en faisait d'ailleurs. En fait. Oui, il faisait des péchés justement pour ça. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, alors c'est pour ça que chez les kabbalistes, on a toujours dit qu'il fallait faire très attention, que l'étude de la Kabbalah, ça ne se fait pas tout de suite, ça ne se fait pas n'importe comment. Il y a toute une échelle à gravir. Mais on passe d'abord par la connaissance du bien et du mal, et après on peut comprendre pourquoi tout a un sens. Il faut donc avoir d'abord intégré la moralité et la connaissance du bien et du mal, et alors on peut après arriver à des considérations qui donnent un sens à tout. Jusque là, vous me suivez?
Oui.
Bon. Maintenant, nous allons compliquer les choses, oui?
On a dit que c'était faux, ça.
Quoi, c'est faux?
Pas obligé d'étudier la
retraite,
par exemple, comment
cela. J'aime beaucoup ce genre d'objection. C'est-à-dire, le rabbin X a dit autre chose que le rabbin Y. Ça veut donc dire que le rabbin X a tort. Le rabbin Y a tort. Si tu as entendu autre chose que ce que je te dis, ça veut dire que je ne suis pas d'accord. Ben oui. Maintenant, qui de nous deux a raison? Le rabbin qui t'a dit le contraire de ce que je dis ou moi?
Lui.
C'est moi qui a raison, c'est lui qui a tort. Oui.
On ne dit pas Elou Velou Divrei Elohim Chaim?
Oui, on dit Elou Velou Divrei Elohim Chaim, mais la halakha est comme l'un des deux. Il y a l'expression Elou Velou Divrei Elohim Chaim est dite dans la Gemara dans Eruvin à propos de Beth Shammai et Beth Hillel. Une voix s'est fait entendre du ciel qui disait ceci et ceci sont les paroles du Dieu vivant et la halakha est comme Beth Hillel. C'est-à-dire que la halakha ne peut pas être comme Beth Shammai. C'est vrai que les deux ont quelque chose à dire, mais ça ne veut pas dire que les deux ont raison dans la halakha. D'accord? Et donc, au niveau de la halakha, c'est moi qui ai raison et c'est lui qui a tort. Maintenant, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, enfin, c'est, peu importe pour notre sujet. Maintenant, je voudrais maintenant revenir, je vais approfondir la chose. Jusque-là, vous avez compris tout ce qu'on a dit?
Oui.
Génial. Alors, bon, alors sort une feuille, il y a une interro là-dessus maintenant. Bon. Comment est-ce que la Kabbale est révélée, la Kabbalah? Alors pour vous dire une chose, la Kabbalah, par définition, n'a jamais été révélée. Elle est toujours restée secrète. Jusqu'à ce jour. Il n'y a aucun livre dans lequel les secrets de la Kabbalah sont écrits. Oui. Il n'y a aucun livre dans lequel les secrets de la Kabbalah seraient écrits. Toute la littérature kabbalistique dont vous trouvez des tonnes, littéralement, dans les librairies, ce n'est pas la vraie Kabbalah. Le Zohar, ce n'est pas la vraie Kabbalah. Non, jamais. Il n'y a jamais eu de révélation pour une raison très simple, c'est que ce n'est pas révélable. Ça se transmet par intuition de maître à élève, de cœur à cœur. Et donc tous les livres sont en fait des drachotes. Ce sont des, si vous voulez, des développements que font les Mekoubalim autour des secrets de la Torah. Mais ce n'est pas le secret lui-même. Oui.
Il n'y a pas d'idée.
Oui, c'est les vêtements. C'est les vêtements de la Kabbalah. Oui.
C'est pas des Mekoubal qui ont dévoilé des choses.
Jamais.
Qu'ils auraient jamais dû faire. Le petit-fils du Rav Berg, c'est un fou.
Ça n'existe pas le petit-fils du Rav Berg. Il n'y a pas de Rav Berg, il y a Dr Berg qui justement ne révèle rien. Il fait de l'argent. C'est pas faire de l'argent, ça ne s'appelle pas révéler des secrets de la Torah. N'est-ce pas? C'est vendre à gogo n'importe quoi. Oui.
Après, si on est kabbaliste, on sait bien qu'il y a des choses à pas révéler au public, comme vous l'avez dit, il y a des choses qu'on ne révèle pas, moi je ne l'ai pas révélé à tout le monde.
Non, je vous dis que jamais les secrets de la Kabbalah n'ont été révélés à n'importe qui. Oui.
Et comment on fait pour les connaître, c'est-à-dire?
Eh bien, il faut avoir un maître.
Ah. En lisant ce livre, ça ne va pas révéler ses...
Le maître, il a de son maître. Oui.
Dans ce livre, ça ne va pas révéler ses intuitions.
Alors, justement, à travers les livres, il y a des intuitions qui sont révélées pour ceux qui le méritent. Finalement, c'est ce qu'écrit par exemple Rabbi Chaim Vital, l'élève du Hari, quand il dit, voilà, je t'écris ça et ça, et si tu as le mérite, tu comprendras ce que j'ai écrit. Si tu mérites, tu comprendras. Ça, et donc, c'est écrit, il y a des codes, d'ailleurs, on voit d'ailleurs dans les textes de la Kabbalah du Hari, qu'il se fiche du monde, c'est-à-dire, il dit, A plus B égale C, d'ailleurs, comme je l'ai déjà expliqué plus haut, que C est égal F et que F est égal A. Ah bon? D'accord? C'est de l'incompréhension, c'est du charabia, et c'est fait exprès. C'est fait exprès pour que seulement celui qui mérite accède à la connaissance. Oui.
C'est par voie orale alors?
C'est plus que par voie orale, c'est par voie intuitive. C'est pour ça que par exemple la Mishnah dit qu'on enseigne les secrets des Arayot, on ne les enseigne pas à trois personnes, mais à deux, que Maaseh Bereshit n'est pas enseigné à deux personnes, mais à une, et que le Maaseh Merkava n'est pas enseigné même à une personne, mais à zéro. Je reprends ici le texte de la Mishnah. Vous avez ici la Mishnah dans Chagiga? Le livre est à l'envers. Voilà, bon. Vous avez ici Chagiga? Chagiga, si, il y a Chagiga. Il n'y a pas Chagiga. Incroyable. Une seconde. Tire-toi là. Une seconde. Déplace-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Là, non, voilà, non, ça n'y est pas non plus. Très bien. Il n'y a pas ici la Mishnah? Une Mishnah? Hein? Il n'y a pas. Bon, eh bien, c'est pas grave. Je vais vous dire le texte de la Mishnah. Je reprends. Quoi? Je fais comme si je lisais dans un... Je vais faire comme si je lisais dans le texte, d'accord? Bon, alors, je vous lis dans le texte. El Dorshin Ba'arayot Bishlosha, c'est dans Maseret Chagiga, chapitre 2, Mishnah 1. El Dorshin Ba'arayot Bishlosha, on n'enseigne pas les lois des arayot, les lois des rapports interdits, on ne les enseigne pas à trois personnes. Ça veut dire qu'il faut les enseigner à combien? À deux. Velo bema'aseh bereshit bishnayim. On n'enseigne pas les lois de la création à deux personnes. Donc à combien? À une personne. Velo bema'aseh merkava beyachid. Et on n'enseigne pas l'œuvre du chariot céleste à une personne.
C'est quoi le chariot céleste?
Non, le chariot céleste, c'est le premier chapitre d'Ézéchiel. Alors, on n'enseigne pas à une personne. Alors, à combien?
Zéro.
Alors, comment est-ce qu'on peut enseigner à zéro personne? Comment est-ce que c'est transmis? Alors, après, non! Alors, on dit, Elaim ken aya chacham ou mevin midato, à moins qu'il ne soit sage et qu'il comprenne de par lui-même, ou mosrim lo rachet prakim, et on lui livre les débuts des chapitres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas déjà l'aptitude intérieure à comprendre les secrets de la Torah, si les secrets ne sont pas déjà en lui, même si on lui enseigne, il ne comprendra pas. Mais s'il a déjà l'aptitude, il a donc déjà les secrets de la Torah en lui, il n'a pas besoin qu'on lui enseigne. Il a besoin simplement qu'on lui fasse de l'ordre. On lui dit, voilà, la connaissance intelle que tu as dans telle partie de ton être, elle vient à l'intermédiaire entre la connaissance X et la connaissance Y. Tu là-bas, tu mets la connaissance Z, mais tu l'as déjà. D'accord? Si tu ne l'as pas déjà, ça ne servira à rien. Voilà. D'ailleurs, le Rambam, qui n'était pas kabbaliste, l'a dit dans son commentaire de cette Mishnah,
c'est...
le Rambam, qui selon le Hari, le grand maître des kabbalistes, n'était pas kabbaliste.
C'est pas possible.
Si le Hari, qui était le plus grand des kabbalistes, dit que le Rambam n'était pas kabbaliste, alors si tu n'es pas d'accord avec le Hari, c'est donc que tu contredis la Kabbalah. Tac. CQFD.
Et donc, il fallait des flux.
Mais non, ça veut dire ce qu'il fallait démontrer, espèce de train. Et donc, le Rambam, dans son commentaire, qui n'était donc pas kabbaliste, mais enfin, dit quand même quelque chose d'intéressant sur cette Mishnah. Il dit. Le Rambam, qui n'est donc pas kabbaliste, nous dit une chose très importante. Chez Yesham Inyani, parce qu'il y a là-bas des choses, Belibot Ashlemim, dans le cœur des hommes parfaits, Asherim Yavou, les Vaerota Bemilim, que si l'on vient à expliquer avec des mots, Yasur Inyanam Viafuk Ta'amam, leur intelligence disparaîtra et leur goût sera frelaté.
Frelaté.
Voilà, c'est du français. Et donc, je reprends donc ce que je disais. Il y a donc dans les secrets de la Torah des choses qui ne peuvent être transmises que de manière intuitive. C'est pour ça qu'il faut bien connaître son maître et bien connaître son élève. Et c'est comme ça que c'est transmis de génération en génération. Maintenant, il y a donc tous les textes que vous trouvez donc dans les bibliothèques et dans les librairies, ce sont donc des discours autour. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment est-ce que ces discours sont composés. En fonction de quoi le kabbaliste décide-t-il qu'il va écrire un livre ou qu'il va donner un enseignement public? Qu'est-ce qu'il veut dire à travers ça? Eh bien, il veut transmettre quelque chose en réponse à un enjeu spirituel de son époque. Or, les enjeux spirituels de chaque époque changent. Et donc, vous avez, pour cette raison-là, cinq périodes différentes de la tradition kabbalistique qui répondent à des enjeux différents de chaque époque. Et à chaque fois, avec un maître qui est à la tête de cette école. Alors, commençons d'abord par la période la plus ancienne. C'est quand la période la plus ancienne du judaïsme?
Moshe Rabbeinu.
Moshe Rabbeinu, très bien, exactement. Moshe Rabbeinu est à la tête de toute une école qu'on appelle les prophètes, n'est-ce pas? Moshe, c'est le plus grand des prophètes. Et la période prophétique, une période assez longue, elle dure à peu près 1000 ans. Elle commence avant Moshe. Elle finit au début de l'époque du deuxième temple. Pendant toute cette période, c'est qui l'ennemi spirituel numéro 1? N'importe quoi. Vous avez lu la Torah? Oui, l'enjeu spirituel auquel sont confrontés les prophètes tout le temps. C'est qui? Hein? Très bien, voilà, quelqu'un qui a lu la Torah. J'ai un enseignement de mon maître, le Rav Ashkenazi, qui disait que pour savoir ce que dit la Torah, il faut...
Lire
la Torah, très bien. Donc, c'est pas ce qu'on pense, on se dirait c'est ça que la Torah affronte, il faut voir qu'est-ce que la Torah dit. Or, la Torah nous raconte que c'était des idolâtres. C'est-à-dire ce qu'on appelle la mythologie du paganisme, c'était ça l'enjeu spirituel de l'époque des prophètes. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi est-ce que les prophètes parlaient dans le langage de la mythologie. Vous savez, souvent dans les universités, on fait ce qu'on appelle des études comparatives, et on dit, voilà, la Bible, elle parle le langage de la mythologie de l'époque. Bravo Alec. Et alors? C'est vrai, elle parle dans le langage de la mythologie de l'époque. Parce que c'est son travail. Elle parle avec le même vocabulaire. Elle dit exactement autre chose. N'est-ce pas? C'est comme si on disait, par exemple, le Rav Cherki a donné un cours de philosophie aujourd'hui au Machon Mir. N'importe quoi, le Rav Cherki ne donne pas un cours de philosophie. Il emploie les termes de la philosophie, le langage de la philosophie, parce que c'est ça l'enjeu spirituel de l'époque. Mais ça n'a rien à voir. Et bien demain, les prophètes, les Habdil, ils sont en lutte contre le paganisme. Maintenant, cette révélation des prophètes, elle s'appelle comment? Alors en hébreu, la prophétie se dit en comment? Nevoa. Il y a un autre terme qui est employé également dans la Gemara quelquefois pour parler de la prophétie. La Gemara dit Kabbalah. Ouais.
Kabbalah.
Ouais. Par exemple, dans Maseret Bava Kamma d'Afbet Amud Bet, vous avez là-bas Divrei Torah, Midivrei Kabbalah Loyal Final. On n'apprend pas des règles de Torah, de l'enseignement de la Kabbalah. Et là-bas, Rashi explique les paroles des prophètes. Pourquoi est-ce que les paroles des prophètes sont appelées Kabbalah? Alors, une des raisons qui ont été données par les commentateurs, je pense que c'est par sens d'humour, Kabbalah, ça veut dire les plaintes. Kvila. Hein, quand j'ai une plainte à déposer, alors en hébreu, ça se dit en hébreu moderne, kvila. Likbol, ça veut dire se plaindre. Or, comme les prophètes n'arrêtent pas de se plaindre du comportement d'Israël, donc leurs paroles sont appelées Kabbalah. Ceux qui sont convaincus, bravo. En tout cas, il y a une autre raison à cela, c'est que le prophète, par définition, est celui qui reçoit. Et donc, le contenu de sa vie s'appelle Kabbalah. et ne s'appelle pas Chochma. Chochma, ça veut dire la sagesse. La sagesse. La sagesse, c'est une analyse de la vie, mais par l'extérieur. Tandis que quand on est dans la vie elle-même, on est en état de réception, il n'y a pas de sagesse. C'est beaucoup plus haut que la sagesse. Mais, et donc vous avez la première confrontation de la Kabbalah, c'est la confrontation avec les idoles, avec la mythologie. Et à la tête de l'école kabbalistique de l'époque, vous avez Moshe Rabbeinu. À peu près comme ça, ça se présente. Et puis après vient une époque dans l'histoire, l'époque post-prophétique. L'époque où les prophètes ont arrêté de parler. Il n'y a plus de révélation. Alors vous savez ce que ça a donné chez les goïms? Ça a donné l'interruption de la mythologie. C'est-à-dire, chez les Grecs, entre autres, mais enfin un peu partout dans le monde, on a cessé de croire dans les mythologies antiques. Ça a continué en tant que kitsch, mais pas plus. Et alors, c'est institué dans le monde une spiritualité nouvelle, la nostalgie de la révélation. C'est ce qu'on appelait les cultes à mystère. Il y avait en Grèce les mystères d'Éleusis, des trucs de ce genre. Ça s'appelle en français des mystiques, tout ça. Et des mystiques. Alors vous avez des tas de textes comme ça qui vous parlent de lumière, de frémissement, de tas de choses comme ça qui mettent en contact, qui seraient supposés mettre l'homme en contact avec la divinité. Ça ressemble un peu à de la drogue. D'accord ? Ça ressemble un peu, bien que ce n'est pas exactement la même chose, puisque c'est non pas, ça ne se fait pas par des moyens, par des trucs, ça se fait par des méditations. Alors, en réponse à cela, apparaît en Israël quelque chose de nouveau. Chochmat HaKabbalah, la sagesse de la Kabbalah. C'est-à-dire, ce qui reste de l'enseignement des prophètes est transformé et devient ce qu'on appelle la contemplation de la Merkava. C'est Shiyat HaMerkava. Et vous avez donc à l'époque du Deuxième Temple, et à l'époque des Tanaïm également, vous avez des textes qui ont été rédigés, qui nous donnent des échos, des intuitions qu'avaient nos Chachamim à cette époque. Ce sont les textes qu'on appelle Hechalot, Hanor, le Sefer Yetzira. Vous avez des passages anciens du Zohar qui sont l'écho de ces choses-là. Vous avez donc le Shiur commun. Toute une littérature extrêmement difficile à comprendre parce qu'elles viennent de cercles dans lesquels ces choses étaient connues, mais elles avaient besoin d'explications. C'est ce qu'on appelle la contemplation de la Merkava en réponse à l'enjeu mystique de l'époque. Faites bien attention, la Kabbalah n'est pas une mystique. Vous avez un texte dans Maseret Avot qui dit « Lo matzati la tov » Lo matzati la guf tov mystica.
C'est quoi une mystique?
Une mystique, c'est un système qui permet à l'homme, enfin qui est censé promettre, qui te promet, que tu as une échelle. Il y a des moyens pratiques et méditatifs qui vont t'amener à un contact avec Dieu. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si tu fais ça et ça et ça, eh bien tu toucheras le divin. C'est ça la mystique. Ce qui est une absurdité. Posons très simple. Quelle est la distance entre moi et Akadosh Baruch Hu?
Il n'y en a pas.
Il n'y a pas de distance?
Oui, il y en a trois.
Quelle distance?
On est en contact avec lui. On ne le sent pas.
La distance est infinie. La distance qui sépare le fini de l'infini est une distance infinie. Combien de temps ça prend de traverser l'infini? Infini. Donc c'est impossible. Donc, on voit bien que les mystiques sont des menteurs. Ils promettent quelque chose qu'ils ne peuvent pas accomplir. Et donc, mais il y a, par contre, en Israël, il y a ce qu'on appelle la Kabbalah. Ça veut dire quoi, Kabbalah?
Réception.
Recevoir. Si je reçois, ça veut dire que ce n'est pas moi qui arrive jusqu'à l'éternité, c'est l'éternité qui vient à moi. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire, l'infini, lui, il comprend le fini. Le fini est inclus dans l'infini. Donc, Akadosh Baruch Hu peut venir à moi, mais je ne peux pas venir à lui. C'est pour ça que quand on parle de Kabbalah, on parle de libérer le terrain qui va permettre à l'infini de se manifester. Oui.
Vous avez dit que le fini, il est inclus dans l'infini.
Oui.
Akadosh Baruch Hu, il est infini, nous on est fini. Donc nous, on peut s'inclure à Akadosh Baruch Hu.
Non, c'est lui qui nous inclut. Donc nous, on ne peut pas l'inclure. Tu sais qu'en français, le mot comprendre a deux significations. Comprendre, ça veut dire avoir l'intelligence de quelque chose, mais c'est également l'inclure. Je le comprends en moi. Ça, c'est impossible. C'est la prétention des philosophes ou des mystiques qui pourraient avoir une définition de la divinité. Donc ça, c'est la deuxième période. Et là, vous avez donc des grands noms, par exemple, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai.
Et eux, c'est quoi?
C'est la contemplation de la Merkaba.
La Merkaba, c'est la nostalgie, là, le truc.
C'est ce qui répond à la nostalgie. Mais il y a des révélations qui sont restées en Israël après les prophètes. Par exemple, il y avait chez ceux qui savaient faire la prière. Vous savez, un de ceux... Tu veux éteindre, Bakasha? Il y a... Ça dépend où tu es exactement. Là, tu es en plein là, sur la route du glacier. Bon, laissez-moi m'exprimer, là, s'il vous plaît. Il y a donc... chez ce qu'on appelle cette tradition de le résidu de la prophétie est resté chez les Chachamim qui avaient le secret de la tefila, le secret de la prière. Par exemple, dans Maseret Brachot, il est question d'un Chacham qui était très fort en prière. C'était qui?
Celui qui allait dans la grotte là pour faire la pluie.
C'est un d'entre eux, non, mais c'est pas seulement le seul. Rabbi Hanina Ben Dosa, n'est-ce pas? Rabbi Hanina Ben Dosa. Il faisait la prière et la Guémara nous dit qu'il disait: ah, celui-là pour lequel j'ai prié, il va vivre. Celui-là pour lequel j'ai prié, il va mourir. Et ce qu'il disait se réalisait. Alors les Chachamim lui ont demandé. Non, c'est pas ça qu'ils lui ont dit. Ils n'ont pas dit comment tu fais. Ils lui ont dit: Naviata, est-ce que tu es prophète? Ils avaient compris que si quelqu'un connaît le secret de la prière, c'est donc qu'il est prophète. Parce que la prière, c'est la réponse à la prophétie. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Et donc, il demande à Rabbi Hamenza, est-ce que tu es prophète? Naviata. Et il a répondu, non. Et là, qu'est-ce qu'il a répondu? Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit une phrase avant ça. La Mekouba l'anime Rabotai. J'ai reçu de mes maîtres que quand on prie comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire, j'ai reçu de mes maîtres en hébreu Mekouba l'anime Rabotai. Je suis kabbaliste. Mekouba. D'ailleurs, le kabbaliste en hébreu se dit Mekoubal, ce qui est bizarre, on devrait dire Mekabel, s'il reçoit. Mekoubal, ça veut dire celui qui est reçu. Il est reçu, c'est-à-dire que sa prière est acceptée. D'accord? Donc c'est ça qui restait à l'époque de Baït Sheni, le deuxième temple. Oui.
Quelle différence entre un kabbaliste et un prophète?
Le prophète, il vit l'expérience prophétique et le kabbaliste en a la tradition. Il en a la tradition et donc il est capable de revivifier. Exactement.
Est-ce qu'il y a des Mekoubal aujourd'hui qui deviennent Mekoubal?
Est-ce qu'il y a aujourd'hui
des Mekoubal? Une prière, machin, comme des...
Mais oui, bien sûr qu'il y en a. Quoi? Il y a des vrais kabbalistes. Bien sûr qu'on peut. Mais non... Il est mort. Bon, vous avez fini là, hein? Parce que si je commence à faire des listes maintenant, je peux continuer? Bon, oui.
Donc on a quand même un chemin arrivé à la Kabbalah. D'accord, j'ai compris.
C'est fini là-bas?
On ne peut pas monter du Rachel. En tout cas, on a un moyen d'y arriver, c'est préparer le terrain, lui permettre.
Exactement. Maintenant, oui. Comment?
Un moyen d'y monter.
Non, c'est le moment c'est un moyen d'y descendre justement.
De le laisser descendre.
Exactement. Ça s'appelle être un terrain d'atterrissage. Voilà. Bon. Oui. Comment? Entre autres, les mitzvot. Les mitzvot. Pas seulement l'étude, c'est les mitzvot. Bon, maintenant, je voudrais continuer ma pénétrante étude. Mon petit discours. Mon laïus, quoi. Donc, vous avez le chef de l'école de cette deuxième période, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui prend la place de Moshe, si vous voulez. Moshe travaille à l'époque des prophètes, Rabbi Shimon Bar Yochai, à l'époque où il n'y a plus de prophètes, et c'est lui qui, si vous voulez, gère tout cet enseignement. Oui.
C'est pas Rabbi Akiva?
Ça peut être Rabbi Akiva aussi. Mais je parle de Rabbi Shimon Bar Yochai parce qu'il est plus populaire. Maintenant, vous avez une période qui vient après celle du Talmud. Comment est-ce qu'on appelle la période historique qui vient après le Talmud? Le Talmud est achevé en l'an 500, hein, pour tout vous dire. Hein? Le Moyen-Âge, exactement. Une période d'à peu près 1000 ans. qu'on appelle le Moyen-Âge. Maintenant, l'enjeu spirituel du Moyen-Âge, c'est ce qu'on appelle la philosophie. C'est-à-dire que c'est vrai que la philosophie est très ancienne, mais elle n'a commencé à dominer le monde qu'à partir du Moyen-Âge, parce qu'il y a eu un dessèchement total de la vitalité divine dans le monde, et donc c'est l'intelligence qui a pris la place. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Mais je veux dire, la domination des esprits par la philosophie plus que par la mystique, c'est quelque chose qui est propre au Moyen-Âge. Et ce qui a donné la scolastique et tous ces machins-là. Et entre autres, il y a la domination de deux courants essentiels, l'aristotélisme et le platonisme. Et en réaction à cela, la Kabbalah se reformule comme si, dans des textes qui font comme si la Kabbalah était de la philosophie. En vérité, la Kabbalah, c'est pas de la philosophie, de même que la prophétie, c'est pas de la mythologie, mais quand vous lisez les textes, ça ressemble. C'est même parfois le même vocabulaire. Mais ça a une source totalement différente, c'est une source révélée, tandis que dans la philosophie, c'est autonome, ça vient de la pensée de l'homme. Et ça aboutit à la fin de tout ce courant-là, à la fin du Moyen-Âge, dans le sommet de la Kabbale de ceci-là, qu'on appelle la Kabbalah séfarade, la Kabbalah espagnole, c'est chez Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, qu'on appelle le Hari. Le Hari, c'est-à-dire le lion de la ville de Tzfat. Le Hari Zal. Quoi? Oui.
Du Moyen-Âge,
il y avait le Ramban, par exemple.
Le Ramban.
Oui. Oui, bien sûr, des kabbalistiques du Ramban. Dans Rashi aussi, il y a des traces.
Là, pourquoi le Hari dit que le Ramban n'était pas kabbaliste?
Parce que c'est la pure vérité. Oui.
Qu'est-ce qui lui fait dire ça?
C'est pas notre sujet.
Mais ça paraît bizarre quand même.
Oui, c'est vrai. Ça paraît bizarre, mais c'est vrai. Bizarre, bizarre.
Il marque le tête, non?
Bon, c'est fini, hein? Bon, qu'est-ce qui s'est passé après le Moyen-Âge? Oui, quoi?
Pourquoi les Ashkenazes ont arrêté de faire de la Kabbalah?
Il y a des traumatismes. Les traumatismes de l'époque de Chafetzi, entre autres. Bon. Mais revenons donc à notre sujet. Après le Moyen-Âge, vous avez des périodes très importantes, entre autres la Renaissance, et puis l'époque des Lumières, et puis après, vous avez le romantisme, enfin tous ces machins-là. Et on peut dire que les hommes ont commencé à se rappeler de quelque chose qu'ils avaient oublié. C'est que l'homme a une vie psychique.
Psychique.
Qui a trait à l'âme, à l'intériorité. Psyché, ça veut dire l'âme en grec. D'où le mot psychologie, tous ces machins-là. Et donc après, ça en donnait des sciences qu'on appelle la psychologie, la psychanalyse, et la psychiatrie même. Et on peut dire que la Kabbalah a vu, elle a un nouvel enjeu, elle s'est donc reformulée sous forme de, si vous voulez, de sagesse psychologique.
Ce qui a donné,
après le Moyen-Âge, ce qui a donné l'expression la plus élevée de ça, ce qu'on appelle le chassidisme. Le chassidisme qui emploie la terminologie de la Kabbale, mais pour résoudre les problèmes de la vie intérieure, de l'âme. Et vous avez à la tête de ce mouvement-là, Rabbi Israël Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, le Becht, fondateur du chassidisme. Et puis après, oui, quoi encore? Non. Et puis après, vous avez au 19e et 20e siècle, vous avez un nouveau mouvement qui se crée dans le monde. Vous avez, disons, la conscience d'appartenir à des mouvements collectifs, ce qui a donné plusieurs mouvements. D'une part, l'éveil des nationalismes, et puis d'autre part, du côté gauche, l'éveil du socialisme, du communisme et tous les collectivismes. Et puis vous avez également, grâce au développement de la science, entre autres, vous avez un mouvement qu'on appelle la laïcité. La laïcité en hébreu, chilonot. Ces trois mouvements se sont retrouvés ensemble dans le sionisme socialiste laïque, qui, comme par hasard, a été également le moteur du retour d'Israël sur sa terre, donc de l'accomplissement des paroles des prophètes. Extrêmement paradoxal. Donc vous avez des prophètes qui parlent pendant des milliers d'années, et puis on attend que ça se réalise, et puis finalement, qui c'est qui le fait? Des gens qui n'y croient pas. Et ça crée évidemment des réactions de toutes sortes chez les rabbins. Ils ne savent pas très bien comment réagir, vous êtes bien au courant de ça, et ça trouble même des bonnes consciences. Même au Machon Meir, il y a des gens qui sont troublés par ces choses-là et qui disent « il y a les Gdolim ». En tout cas, il y a donc par rapport au collectif, un nouvel enjeu de la Kabbalah, le cinquième enjeu, et c'est la révélation de la Torah de la Kabbalah à travers l'enseignement du Rav Kook. Et donc vous avez à chaque fois un chef d'école, si vous voulez, vous avez donc Moshe, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Hari, le Baal Shem Tov et le Rav Kook, qui forment donc ces cinq crêtes de la chaîne montagneuse de la Kabbalah. C'est qu'à chaque fois, elle se reformule en fonction des enjeux spirituels de l'époque. D'accord ? Tandis que chez le Gaon de Vilna, c'était dans le secret de son cercle intime, tu comprends ? C'est pour ça que je n'ai pas parlé du Gaon de Vilna. Et donc, c'est dans cette mouvance-là que se situe Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai se situait au début de l'époque de l'exil. Aujourd'hui, nous sommes à la fin, nous sommes après cet exil. Et donc, nous avons maintenant l'occasion de récolter toute la richesse de l'enseignement des kabbalistes qui commence par Rabbi Shimon Bar Yochai et qui aboutit à notre époque avec, par exemple, l'enseignement du Rav Kook, ce qui fait que nous vivons une époque extrêmement privilégiée. Jusque-là, vous me suivez ? Il me reste encore 3 minutes ? Il me reste encore 3 minutes. Vous savez que les kabbalistes parlent de ce qu'on appelle les séphirot. N'est-ce pas ? Les séphirot. Hein ? Les 10 séphirot. N'est-ce pas ? Alors c'est quoi les 10 séphirot ? Ce sont les émanations divines qui expliquent la manière dont HaKadosh Baruch Hu dirige son monde. Très bien. Sur les 10 séphirot, il y en a 7 qui sont ingérées dans le temps, dans l'histoire. Et donc quand on veut étudier la providence de Dieu à travers le temps, ça se divise en 7. Et donc vous avez 7 semaines entre Pessah et Shavuot qui correspondent aux 7 séphirot intérieures qui sont Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod Yesod et Malchut. Et vous avez dans les Sidurim, vous avez souvent, ils ont imprimé la kavana qu'ont les kabbalistes pour chacune de ces sept semaines et chacun des sept jours de la semaine. Bon, la première semaine est appelée Chesed, la deuxième est appelée Gevura, etc. Et donc dans la première semaine, vous avez également 7 jours. Donc vous avez Chesed, Sheba Chesed, Gevura, Sheba Chesed, Tiferet, Sheba Chesed, etc. Après vous avez Chesed, Sheba Gevura, Gevura, Sheba Gevura, etc. N'est-ce pas ? Donc vous avez 49 permutations des 7 séphirot qui donnent les 49 jours de la du conte de l'Homer. Voilà. Ça n'a rien à voir avec les contes de Homer, le grec. C'est pas des contes homériques. C'est on compte l'Homer. C'est pas du tout la même chose. C'est une supputation, ils disent dans certains, la supputation de l'Homer. Et donc, ça, on y croyait. C'est vrai que nous sommes des bons juifs et que nous croyons à ce que disent nos maîtres. Nous avons toujours cru que les kabbalistes avaient raison, mais on ne savait pas pourquoi ils avaient raison. Mais de nos jours, on n'a plus besoin d'y croire. Parce que les secrets se sont révélés. Comment ils se sont révélés ? Ben c'est très simple. La première semaine de l'Homer, c'est, on l'avait dit, c'est Chesed. La grâce, effectivement, la sortie d'Égypte qui s'est passée pendant cette première semaine était sans mérite de la part d'Israël, donc c'était un pur Chesed. Mais la deuxième semaine, celle de Gevura, ça correspond à quoi ? Eh bien, ça correspond au jour de l'Holocauste, le Yom HaShoah, Yom HaShoah avec Gevura d'ailleurs, qui est la manifestation extrême de la Midat Hadin qui s'est passée pendant la deuxième semaine de la Sfirat HaOmer. Et la troisième semaine, c'est Tiferet. Tiferet, ça veut dire la... Ça veut dire quoi, Tiferet ? La splendeur, très bien. Qui c'est qui a dit splendeur ? Toi ? Pourquoi tu ne l'as pas dit avant, alors ? Bon, alors, la splendeur d'Israël a été rétablie lors de la troisième semaine de l'Omer avec la fondation de l'État d'Israël, c'est la semaine de Yom HaAtzmaout. Et puis la quatrième semaine, c'est celle du Netzach. Netzach, de l'éternité, qui est la Mida de Moshe Rabbeinu, qui est effectivement lié au Netzach, et également le 10 du mois de Yar, le jour de Netzach Sheba Netzach, le Netzach du Netzach, c'est le jour qui a été fixé par la Knesset comme étant le jour de Herzl, parce que c'est le jour de la naissance de Herzl, qui lui nous a fait sortir de l'Europe, comme de la même manière que Moshe nous a fait sortir d'Égypte. La cinquième semaine, vous avez donc le Hod, Hod Sheba Hod, c'est l'Akba Omer aujourd'hui. C'est le jour où se révèle la lumière cachée dans l'obscurité, c'est ce que fait le Zohar, et c'est ça que représente le Hod. Et puis vous avez la sixième semaine, celle du Yesod, Yesod Sheba Yesod, le du mois de Yar, vous avez le jour de la Hiloula de Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato, l'auteur de l'ouvrage de morale fondamentale du judaïsme, le Messiah Tisharim. Or, le Yesod, c'est la moralité individuelle, donc ça correspond. Et puis vous avez la septième semaine dans laquelle tombe toujours Yom Yerushalayim, le jour de la libération de Jérusalem en 1967, Jérusalem étant la ville de la royauté, de la Malchut. Et donc vous voyez que des choses qui jusqu'à présent étaient un objet de foi sont devenues quelque chose de concret et de palpable.
C'est quoi le nom de la septième ?
Malchut, la royauté. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.